Jean-Charles Petitjean de l'association Barakana et Caroline Croisier de chez AIDS sont avec nous. Bonjour à vous deux.
Bonjour.
Vous cherchez à mettre en place un lieu innovant et prospectif, le Drugstore, qui aura lieu fin juin ici à Rennes pour une régulation du phénomène de la drogue, sortir des postures idéologiques et favoriser aussi la santé, le bien-être des personnes au service du bien vivre ensemble. Vous partez notamment du constat d'un échec de la guerre aux drogues et de son cadre réglementaire datant des années 70. Sur quoi vous basez-vous concrètement pour considérer que cette guerre à la drogue est un échec aujourd'hui en France ?
Alors, déjà, le premier point, c'est que les drogues sont toujours là. Mmh. Et ça pose toujours un problème dans la société. On a bien vu que la répression fonctionnait pas du tout et a plutôt tendance à enfoncer les personnes consommatrices et ça n'agit pas du tout sur tout l'aspect qui va au-delà de la production de drogue, de la mafia, enfin bref, tout ça. Et c'est vraiment les consommateurs en fait qui sont les premiers pénalisés par cette loi de 70. L'idée en fait pour le 26 juin, c'est de réfléchir à une autre politique des drogues. Donc on n'a pas forcément une position très tranchée sur ce qu'on souhaiterait, mais c'est en tout cas revoir cette loi qui, pour l'instant, c'est clairement un échec. Donc moi-même, j'interviens à l'association AIDS, qui lutte contre le VIH et les hépatites. Et au sein de nos locaux, en fait, on a un centre médico-social qui se nomme le CARUD et qui accueille des personnes consommatrices de produits psychoactifs. Donc là, on est clairement dans la réduction des risques. On n'est pas du tout dans la substitution ou l'injonction thérapeutique d'arrêter à tout prix. L'idée, c'est que les personnes prennent le moins de risques possible pour leur santé et aussi au niveau de leur insertion sociale, professionnelle, familiale, et de pouvoir rester en lien avec les différentes sphères de la société. Et je ne sais plus pourquoi je disais ça, désolée.
Vous constatez chez AIDS que vraiment cette consommation et les risques sanitaires qu'il peut y avoir sont liés aussi à une sorte de tabou, à une diabolisation de la drogue.
Et du coup, les personnes qui entreprennent différents projets peuvent du jour au lendemain se retrouver incarcérées ou alors devoir payer une amende ou autre, alors qu'elles n'ont pas forcément les moyens, juste parce qu'elles consomment des produits psychoactifs en fait. Mmh. Du coup, nous, on ne les considère pas comme des personnes malades, juste... pouvoir permettre de consommer tout comme des personnes peuvent consommer de l'alcool, alors qu'on sait très bien que c'est pas forcément positif pour leur santé non plus, mais en tout cas la société le laisse faire quoi. Donc rendre les personnes plus autonomes sur cet aspect là en tout cas. Voilà.
Jean-Charles Petitjean, vous chez Barakana, quel regard vous portez sur cette politique répressive, cette guerre à la drogue en France ?
Ah ben, je porte un regard très critique parce que en plus on pensait que ça allait évoluer avec Macron. Et ce monsieur Macron, avec son ami Collomb, nous pond une contraventionnalisation des drogues, parce que beaucoup de gens croient que c'est que le cannabis, mais c'est tous les produits illégaux. Donc ça concerne tous les consommateurs de produits illégaux. Et donc, on se bat pour légaliser ou décriminaliser.
En tout cas, une dépénalisation
De l'usage.
Et donc, c'est plusieurs associations qui se rejoignent. Il y a l'Orange Bleu qui n'est pas avec nous ce soir. Comment ça s'est passé, vos trois associations qui n'ont certes pas tout à fait le même regard? Comment ça s'est fait pour travailler ensemble et aboutir à ce projet commun?
C'est des associations déjà qui travaillent ensemble, de facto. L'Orange Bleu et AIDS, comme ils sont dans la réduction de risque, ils travaillent déjà ensemble et tout. Puis Barakana est venu se greffer à ces associations, parce que c'est des associations militantes, comme Barakana, donc... C'est tout à fait normal que Barakana, AIDS et l'Orange Bleu soient dans la même équipe pour revendiquer la dépénalisation et la décriminalisation des produits.
Et ce drugstore éphémère qui aura lieu à Rennes, rue de la Chalotais le 26 juin, s'inscrit dans une action internationale qui se nomme Support Don't Punish. C'est vraiment quelque chose qui ne concerne pas que Rennes, quoi. Il y aura des actions partout dans le monde à peu près à cette période-là, en fait. Et donc, ça a lieu tous les ans. Et les autres années, on faisait plus des sortes de conférences, en fait, autour d'un film, d'un thème. Mais on s'était rendu compte que finalement, c'était que des personnes qui étaient déjà qui était déjà au courant en fait de ce qui se passait, qui avait déjà une position. Et là, on s'est dit qu'on allait faire quelque chose de d'un peu plus innovant et un peu plus ludique aussi. Donc les médias seront conviés et le public aussi tout l'après-midi.
Donc on va rentrer directement dans le vif du sujet de ce drugstore qui consiste justement à mettre en place plusieurs choses qu'on va voir successivement, si vous le voulez bien, en rappelant tout de même au tout départ que s'il s'agit là d'une simulation, bien
entendu.
Tout à fait,
il n'y aura pas de drogue.
Puisque l'objectif c'est la simulation d'une vente encadrée, de l'accompagnement, une offre médico-sociale aussi. Est-ce qu'on va voir une simulation de vente, une vente encadrée, à quoi ça ressemblerait dans cet idéal qu'est le drugstore pour vous?
L'idée, c'est... Enfin, je faisais le parallèle avec l'alcool tout à l'heure. Là, ça serait un peu pareil, c'est connaître les taux de produits actifs dans chaque échantillon, savoir vraiment les réelles compositions, puisque là, à l'heure actuelle, les usagers achètent à des dealers sur la voie publique, mais ils ne savent pas du tout ce qui compose... leurs produits qu'ils vont consommer plus tard, quoi. Donc... Là, en termes de santé publique, il y a un réel enjeu, en fait, comme l'alcool, on sait à quel degré c'est, on sait à quoi s'attendre, on sait quels effets sont attendus. Là, ça serait l'idée. Il y aura aussi une simulation de testing, donc pour savoir justement ce qu'il y a dans le produit, et également un espace dépistage aussi sur place, quoi.
Donc ça, c'est ce que vous appelez l'offre médico-sociale pour le dépistage. Sinon, il y a l'accompagnement communautaire aussi. De quoi s'agit-il ?
Donc l'accompagnement communautaire, c'est ce qu'on pratique au sein de l'association AIDE. En fait, c'est partir du principe que les personnes consommatrices connaissent très bien, alors que ce soit l'injection, comment faire les préparations, tout ça, beaucoup plus que nous, en tant que professionnels ou bénévoles qui militons au sein de l'association. Et du coup, c'est vraiment s'asseoir sur leur expérience à eux, à elles, en tant qu'usagers, pour faire avancer les choses aussi, quoi. On les considère vraiment comme des acteurs à part entière du processus.
Donc on simulera à nouveau aussi un espace de consommation et d'information. Ça apporterait quoi dans un véritable, on va dire, drugstore comme ça, d'avoir des espaces de consommation très déterminés comme cela ?
Alors en fait, l'idée, il y a eu tout un débat il y a quelques années autour des salles de consommation à moindre risque qui ont été simplifiées comme salles de shoot. L'idée en fait de ces salles, c'est vraiment pour les personnes qui le désirent, c'est pratiquer une injection ou en tout cas une consommation face à des professionnels ou à des personnes qui connaissent en tout cas les actes, pour avoir des pratiques les moins risquées possibles pour elles, en fait, quoi. Parce qu'on s'est rendu compte aussi que beaucoup de personnes peuvent s'injecter depuis des années mais n'ont pas forcément des pratiques très bénéfiques pour... Vous me direz, l'injection en elle-même n'est pas forcément bénéfique. Mais quand en plus on rajoute des choses par là-dessus qui le sont encore moins, ça met la personne vraiment en difficulté.
Et dans quelle mesure on pourrait attirer ces personnes consommatrices dans ce genre de lieu, alors qu'ils sont déjà habitués à avoir leurs propres espaces de consommation ?
Peut-être justement déjà en dépénalisant la possession et l'usage. Parce que là, ce qui freine certaines personnes, c'est le risque d'être interpellé par les forces de l'ordre. Et ça, du coup, ça les pousse pas forcément à venir dans les structures comme la nôtre au Carude.
Justement, parlons de la représentation de la force publique, ou en tout cas son pendant légal, la préfecture. Comment est-ce que ça a été reçu par les institutions publiques et vous, différents partenaires, notamment chez vous à AIDE, vous en avez de nombreux. Comment est-ce que c'est reçu ce genre de proposition comme les drugstores ?
En tout cas, au niveau de Rennes, ça passe plutôt bien. Mmh. Voilà. Enfin, il y a des soutiens Il y a quelques élus qui sont OK avec ce qu'on propose. Une autorisation est en cours au niveau de la préfecture, mais toutes les autres années, ça n'a pas posé de...
Ils nous connaissent, ils savent qu'on est des gens sérieux, qu'on n'est pas là. Il faut légaliser bêtement, sans argumentaire derrière. On a tout un argumentaire pour prôner notre action. Donc au niveau des autorités et tout, il n'y a pas de souci. Évidemment, il ne faut pas qu'on franchisse la ligne jaune. Mmh. Il est hors de question qu'on franchisse la ligne jaune.
Parce que Jean-Charles Petitjean, vous avez eu quelques difficultés par le passé avec Barakana, notamment pour avoir présenté sous un jour favorable la drogue. Ça fait partie aussi de ces questionnements-là autour de la dédiabolisation, puisque ça a été des problématiques même d'ordre judiciaire que vous avez eues.
Tout à fait, oui, mais bon, il faut tout remettre dans son contexte. C'était en 2003, en 2004, pardon. Sarkozy a été ministre de l'Intérieur, il a dit qu'il voulait fermer tous les gros shops associatifs, il a fermé tous les gros shops associatifs, on est passé en justice derrière, bon, affaire classée. Ça ne nous empêche pas d'exister, puis continuer nos revendications, qu'il n'est plus là, parce que lui il n'est plus là, mais nous on est toujours là. Les consommateurs et les consommatrices sont toujours là aussi, et on ne lâchera pas le morceau, quelques personnes qui soient à l'Intérieur, à la justice, à la tête du gouvernement ou à la tête de l'État, on aura toujours nos revendications tant qu'on n'aura pas raison. Et on a raison, puisqu'on voit dans le reste du monde, ça légalise à tour de bras. Et vous regardez tout autour de la France, en Europe, tout ce qui est médical, que ce soit cannabis ou d'autres produits, hein, la substitution et tout. Bon, en France, ça existe, mais bon, c'est quand même... c'est pas trop évident quand même. Et bon, en France, ben, ça coince.
Et les résultats sont comment dans ces autres pays, justement?
La consommation baisse.
Bah, ils sont plutôt concluants, en fait. Enfin, dans un pays comme le Portugal, qui a dépénalisé toutes les drogues, l'usage de toutes les drogues, tu posais la question de savoir, pour les espaces de consommation à moindre risque et tout, là, justement, les personnes vont... davantage vers le soin, en fait. Donc, nous, enfin, notre idée, c'est pas d'amener tout le monde vers le soin ou la substitution, mais c'est qu'en tout cas, les consommations ne soient plus cachées. Et l'idée, c'est pas de dire c'est bien de se droguer. Enfin, jamais on tiendra ce genre de discours, c'est hors de question. De toute façon, n'importe quelle dépendance, je pense que les personnes se sentent pas forcément très bien dans cet état-là, mais ne pas en rajouter une couche avec ce risque pénal. Voilà, c'est vraiment l'idée. De notre combat, en fait, de nos revendications, quoi.
Oui, puis il faut quand même pas oublier que les personnes qui consomment sont des malades et pas des délinquants. Et ça, quand la société aura compris ça, les trois quarts des problèmes partiront, puisqu'on traitera plus les consommateurs de produits psychoactifs comme des drogués, comme des gens dangereux et tout, mais comme des malades, ce qu'ils sont. Injecter de l'héroïne, jouer au jeu 10 heures par jour, fumer 3 paquets de cigarettes par jour, boire 1 litre de rouge par jour, c'est de la drogue.
Après, effectivement, on peut considérer des personnes malades de dépendance, mais il y a aussi tout un tas de personnes qui consomment de manière totalement occasionnelle, en festif, et sans être dans la dépendance, mais qui consomment des produits illicites, illégaux, et sans pour autant être dans une addiction quelconque. Et voilà, c'est pas que le drogué qu'on voit dans Trainspotting ou autre, enfin, l'image très stéréotypée, il y a tout un tas de consommations, il n'y en a pas qu'une, et il ne faut vraiment pas se cantonner à ça. Et c'est vrai qu'au niveau des pouvoirs publics, ça peut être cette image qui est véhiculée, que forcément la drogue, ça apporte que des choses négatives. Bon, on sait très bien que ce n'est pas vrai. Voilà. Tout le monde a pu... quand on voit les rapports de l'OFDT, qui est l'Office français des drogues et toxicomanies, au niveau des expérimentations, en tout cas déjà de cannabis, mais aussi d'autres produits tels que la cocaïne ou l'héroïne, il y a énormément de personnes qui goûtent au moins une fois, mais sans forcément tomber après dedans de manière pathologique, quoi.
Et ce qu'on peut rappeler aussi, c'est que ces produits-là augmentent. La consommation de ces produits-là augmente.
Les consommations augmentent. D'héroïne et de cocaïne. Les personnes sont plus à même de dire qu'elles consomment.
Aussi. Hein.
Mais voilà. Enfin, en tout cas, c'est vrai qu'au niveau de la société, il y a... des choses tombent, en tout cas. Donc, voilà.
Là, on parle un peu sous une même égide de l'ensemble des substances. Et quand on parle de dépénalisation, donc là, on a parlé à la fois de cannabis, de cocaïne, d'héroïne. Vous parlez d'accessibilité selon des modalités différenciées en fonction des produits. Est-ce qu'il faut faire des différences quand on parle d'héroïne et de cannabis, ou est-ce que finalement, c'est la même problématique?
J'ai envie de dire, mais ça n'engage que moi, je ne parle pas du tout au nom de l'association, voilà, c'est un point de vue personnel. Je pense qu'il y a énormément de produits qui sont licites en France, et notamment l'alcool, qui causent beaucoup plus de dégâts que l'héroïne. Et voilà, moi personnellement, j'ai pas envie de faire une échelle de ce qu'il y a de plus dangereux ou quoi, parce que ça concerne vraiment les personnes. On réagit tous différemment selon le type de produit, de substance. Des personnes vont être ultra réactives au café, d'autres pas du tout. Elles vont mieux supporter l'alcool que l'héroïne. Enfin, ça dépend vraiment des personnes, des contextes. Donc j'ai envie de dire que c'est difficile de répondre à cette question. Pour moi, personnellement, je ne parle pas au nom de
c'est pour ça qu'on parle pas de drogue, on parle d'addiction. Parce que le mot drogue ne veut rien dire. C'est quoi une drogue? C'est comme une secte, c'est quoi une secte? Ça n'existe pas. Il y a les dérives sectaires, il y a l'addiction. Il y a l'addiction, oui, comme disait Caro, il y a l'addiction au tabac, il y a l'addiction à l'héro, il y a l'addiction au jeu, au sexe, à l'alcool,
au sport.
Au sport. Ouais.
Alors parmi nos auditeurs, il doit bien y en avoir quelques-uns qui réagissent comme beaucoup de gens aux salles de shoot, dire bon, à la limite que ça existe, pourquoi pas, mais pas à côté de chez moi parce que ça va créer de la délinquance dans mon quartier et tout ça. Qu'est-ce qu'on rêve ? Enfin, j'imagine que votre discours doit commencer à être bien rodé face à ce genre d'argumentation.
Bah alors en fait, effectivement, ça peut totalement se comprendre. Au moment de l'ouverture des Carud, donc qui est la structure qui dans laquelle je milite. On distribue du coup des seringues, des pipes à crack, des carnets pour rouler des pailles, voilà. Donc effectivement, ça amène un public de personnes qui consomment des drogues. Et au tout début, évidemment que les riverains ne souhaitaient pas que ce soit à côté de chez eux. Là, je prends l'exemple de Rennes, hein, parce que c'est celui que je connais. Là, ça se passe très très bien avec les voisins. On a même un projet de jardin collectif avec eux et les usagers. Donc ça casse aussi des représentations qu'on peut avoir et qu'on a en droit d'avoir. Enfin, je peux comprendre que quand on a des gamins et tout, on n'a pas forcément envie de se retrouver face à quelqu'un qui va se piquer dans la cage d'escalier. Mais justement, avec ces salles, ça pourrait éviter ce problème-là, quoi. Et éviter le problème aussi des seringues qui traînent sur l'espace public et qui posent un problème de santé publique en termes de contamination. VIH, hépatite, voilà. Donc ces structures-là sont vraiment pas faites pour embêter les riverains. Tout ce qu'il y avait eu à cette époque, c'était donc dans le coin du 10e, où effectivement il y avait des scènes ouvertes d'injection. Les riverains ne le souhaitaient pas, n'empêche que ça faisait aussi des années qu'ils réclamaient quelque chose. Donc tout peut pas satisfaire tout le monde, mais en tout cas là ça fonctionne. Donc il y aura une évaluation qui sera faite dans quelques années. Mais là, en tout cas, on n'en entend pas parler. Enfin...
Et on voit à l'international, donc Support Don't Punish, qui sera le 26 juin, avec ici tout ça à Rennes, avec cette salle, donc ce drugstore, où on pourra venir casser un peu nos idées reçues et voir comment ça pourrait se dérouler avec une dépénalisation. Mais pourquoi alors, qu'est-ce qui pourrait être le déclic pour qu'en France, puisque ça vient sur la scène publique, on sent que certains élus se sont positionnés par le passé pour l'évolution des choses, et pourtant, voilà, vous pouviez le dire tout à l'heure, vous Jean-Charles, avec Emmanuel Macron, il y avait peut-être un espoir, enfin en tout cas, vous en aviez eu un à ce sujet-là. Qu'est-ce qui pourrait être le déclic pour une dépénalisation un peu intelligente et une arrivée vraiment sur la discussion publique de tout ça?
De pas avoir peur de l'électorat, ouais. D'être un peu courageux, je pense. Enfin, est-ce que c'est vraiment du courage? Enfin, les décisions politiques doivent être prises aussi pour le bien-être de la population. Et là, clairement, les usagers de produits psychoactifs n'ont pas leur place en prison. Enfin. Ça les enferme dans quelque chose de l'ordre de la délinquance, dans des parcours qui n'aident pas à avoir une vie posée, ou en tout cas, enfin posée. On peut mettre ce qu'on veut derrière, mais en tout cas éviter la casse-prison, quoi. Mmh. Et du coup, de ne pas aggraver les problèmes de santé non plus, de rupture familiale, rupture avec le travail, voilà quoi. Mmh.
Moi, je compare beaucoup la législation sur les stupéfiants avec l'homosexualité. Dans les années 70, les homosexuels étaient des malades mentaux. On les mettait soit en HP, soit en prison. Il a fallu quand même attendre 2015-2016 pour avoir le mariage pour tous.
Donc, il y a des choses qui prennent parfois du temps. Il y a un argument, moi, qui m'a assez parlé et qui rejoignait ce que tu pouvais dire, Caroline, tout à l'heure, c'est sur le coût de cette guerre pour la société. Donc, il y a le coût, bien sûr, non chiffrable. Et puis, celui qui est chiffrable, vous l'évaluez à 2,3 milliards d'euros par an. Qu'est-ce que ça représente? Qu'est-ce qu'il y a dans cette enveloppe assez immense, tout de même?
Toutes les forces de l'ordre, du coup, qui agissent dans le cadre de la répression de la consommation. Les personnes qui vont en prison ou même les mesures de bracelet électronique ou autre, ça coûte de l'argent. Dans les tribunaux, tout ça. Enfin, ça coûte énormément d'argent, quoi. Toute la contrebande aussi. Voilà. Enfin, une fois que ce sera légalisé, les circuits seront légaux. Donc, ça sera des productions légales. Ça évitera tout ça aussi. Et ça, c'est de l'argent, donc, comme ça a été fait dans pas mal de pays, qui a été réinjecté dans des programmes de soins, des programmes d'insertion, des programmes sociaux. Et ça fonctionne, en fait. On l'a sous les yeux. Donc pourquoi pas en prendre de la graine et faire un peu ce qui se fait, enfin, d'innovant à côté de chez nous, quoi.
Là, je peux prendre juste un petit exemple. Vous parliez de Barakana tout à l'heure. Ça a coûté pas loin de 100 000 euros pour ces Barakana. Mm-hmm. Et c'est vous, contribuable, qui avez payé.
Donc là, pour le 26 juin, simulation, donc on l'a dit, de vente encadrée, d'accompagnement communautaire, d'offres médico-sociales, d'analyse des produits, un espace de consommation et d'information également. C'est dans le cadre de Support Don't Punish, donc un gros, gros événement. Vous retrouvez tout ça sur Facebook, Drug Store, en ce qui concerne Rennes. Quel type de réaction vous attendez à avoir, vous, le jour même, des personnes qui seront là ?
On s'est préparé à tout, aussi bien des personnes qui soutiennent que des personnes qui, à l'inverse, sont totalement contre. Mais justement, enfin, le fait que ça se passe aussi sur l'espace public, c'est vraiment l'occasion de pouvoir discuter avec tout le monde. Et j'ai envie de dire, tant mieux si c'est pas que des personnes qui soutiennent, parce que l'idée, c'est justement de changer les mentalités, de pouvoir discuter, de pouvoir avancer et de pas faire ça que entre nous. Enfin, il y aurait aucun intérêt à. Enfin, avec Jean-Charles, on peut discuter, on est d'accord, en fait, sur le fond. Donc, ça n'a pas un grand intérêt. L'intérêt, c'est de pouvoir monter, justement, ce type d'action. Mais après, c'est vraiment de se confronter à toutes les réactions.
La discussion, c'est la clé.
Oui, puis dans les contres, il y a deux. Il y a les contres avec qui on peut discuter, et puis il y a les bornés. Mmh. Bon, ben, le borné, c'est pas la peine de...
Comment on fait pour les convaincre, les bornés, alors ?
On n'en parle pas avec eux.
D'accord. Mais ils sont tout de même invités à venir ?
Oui, non, mais c'est...
Tout le monde est invité à venir, et enfin, on ne parle pas avec eux. Enfin, après, c'est plus, comme tu disais, Jean-Charles, avec le mariage des personnes homo ou lesbiennes, voilà, c'est... après, la société avance, quoi. Donc, de toute façon, c'est là. Des consommations de drogue, il y en a. Donc, ça ne sert à rien de se voiler la face, de faire comme si ça n'existait pas. Et il faut avancer et arrêter de... Enfin, je le répète, mais arrêter de pénaliser les consommateurs, quoi.
Oui, puis de toute façon, chaque jour, il y a des millions de personnes qui enfreignent la loi. Une loi qui est mauvaise, il faut la changer. Puisque les personnes enfreignent la loi, il y a pratiquement sur le million que je vous parle, il y a peut-être 5 ou 10 000 qui se font contrôler, voire condamner. Bon, tous les jours, il y a 1 million de personnes qui consomment. Parce que je parle pas, on ne parle pas que cannabis, on parle de tous les produits illicites. Là, on ne parle même pas de l'alcool, du tabac, parce que là, on est à la moitié de la population. Hein.
Et au-delà de la prison, voilà combien d'overdoses qu'auraient pu être évitées aussi, d'overdoses mortelles, j'entends, qu'auraient pu être évitées depuis toutes ces années aussi, quoi.
Donc faire changer la société, ou au moins faire changer sa propre mentalité, ce sera l'objectif de votre venue à ce Drug Store le 26 juin. Vous retrouverez toutes les informations, bien entendu, sur les réseaux sociaux. On est avec Jean-Charles Petitjean de l'association Barakana et Caroline Croisier, infirmière chez AIDE. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.
Et on n'oublie pas l'Orange Bleu.
C'est ce que j'allais dire. On remercie également l'Orange Bleu qui n'a pas pu être présente, mais qui sera également associée à tout ça. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.
Merci beaucoup de nous avoir invités.
Et c'est la fin de cet enjeu de santé.